Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques, des nouvelles technologies et de leurs usages, le grand sujet. Aujourd'hui, la typographie en mouvement avec Geoffrey Dorn, Franck Adiebiaï et Pauline Nouniès. Bonjour à toutes et à tous. Et comme chaque semaine dans Place de la Toile, l'Internet Explorer Thibaut Henton, aujourd'hui Orwell contre Huxley, rien que ça. La lecture de la semaine, encore un sujet modeste, comment la collaboration tue le capitalisme. Et près de la machine, le choix musical de Billy Guidoni aujourd'hui, les chefs secrets, mais tout de suite la typographie en mouvement. L'auteur de ce morceau s'appelle Candy Cheng. Elle est américaine, d'origine taïwanaise, elle est musicienne, elle est designeuse, et le morceau s'intitule « Bravo Futura ». C'est un hommage à la police de caractère Futura, police conçue, je l'ai appris à l'occasion, entre 1924 et 1927, dans un esprit participant au Baos. Et Candy Cheng, donc depuis Taïwan et l'Amérique, est une fan du Baos, et donc rend hommage dans ce morceau à Futura. On parlait des langues la semaine dernière dans Place de la Toile, on parlera littérature la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on s'intéresse au fond à ce qu'il y a de plus matériel, peut-être, dans toutes ces questions, les caractères tels qu'ils apparaissent, la composition des pages aussi, et l'art qui consiste à dessiner ces caractères, à savoir la typographie. Alors, la typographie très très vieillard. On sait que l'informatique et l'internet lui ont fourni un nouvel essor, mais aussi ont posé de nouveaux problèmes aux typographes. On en a déjà parlé dans Place de la Toile il y a quelques années, mais si on a décidé d'y revenir aujourd'hui, c'est parce que les choses bougent encore, bougent à nouveau. Continue à bouger. Dans bien des lieux de l'internet, on parle beaucoup de typographie. Des sites spécialisés ouvrent, des fonderies numériques fleurissent, les nouvelles fontes sont recensées, elles sont commentées, elles sont discutées, elles sont raillées aussi, car les typographes entre eux sont cruels, je l'ai découvert. Alors on peut y voir un effet de mode, mais il y a sans doute quelque chose de plus profond, le fait acté que nous lirons de plus en plus sur écran et que ce qui nous relie au livre en l'absence du papier, ben, c'est peut-être le caractère et la mise en page. Et puis, il y a aussi des raisons qui tiennent à la technologie elle-même. De tout cela et d'autres choses encore, nous allons parler ce soir avec trois invités. Pauline Nouniès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes graphiste dans l'édition, notamment chez Ypsilon, qui est une maison d'édition spécialisée en typographie. Et puis, vous participez à un site qui a ouvert là il y a quelques jours.
Oui, très récemment.
Voilà, c'est Thibaut qui, dans sa gigantesque vigilance des choses, m'a fait remarquer donc la naissance de ce site qui s'appelle Point Typo et qui se donne pour but de rendre compte de l'actualité de la typographie. Geoffrey Dorn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes designer graphique dans l'édition et le numérique et vous tenez par ailleurs le toujours intéressant blog graphisme et interactivité et puis aussi les vendredis
du graphisme.
Voilà, sur OVNI. Franck Adiebiaï, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez plusieurs activités dans la vie, dont celle de typographe. Vous avez une fonderie de caractères qui s'appelle VTF et vous êtes l'auteur notamment d'une biographie de François Boltana qui est un grand typographe français. Alors pour commencer, je vais juste énumérer vos dates de naissance, sans dire laquelle appartient à qui. 1982, 1983, 1985. Vous êtes donc très jeune. Je me disais, j'avais une sorte de bête préjugé, qui était de me dire que la typographie, c'était un truc de vieux. Et je suis étonné voilà, que des gens aussi jeunes s'y intéressent, autant que vous. Qu'est-ce qui vous intéresse chacun dans ce vieil art qui est celui de la typographie, Pauline Nouniès?
Bah, moi, je crois que ça part déjà plutôt de l'amour du livre, en fait, que j'ai eu très tôt. Et puis, avant d'arriver à la typographie, j'ai un cursus à la fois en histoire de l'art, en graphisme. Et puis, je me suis dit, voilà, si je veux faire des livres, des beaux livres tels que je les aime, il faut que je m'intéresse absolument à la typographie, et notamment à la composition des caractères. Et donc voilà, alors après sur l'aspect générationnel, je sais pas, on est dans une continuité après tout. C'est vrai que quand on a la chance d'étudier la typographie avec des anciens, on peut dire, même si ils vont tiquer à ce mot, voilà, on est dans une continuité de pensée. Enfin, c'est aussi un savoir-faire, donc je crois que ça dépasse un peu les clivages générationnels après tout.
Franck Adiebiaï, vous avez commencé la typographie à 17 ans.
Oui, bah en fait, je suis venu à la typographie par l'informatique. Hein,
Ah oui, par l'informatique,
par
vous.
l'informatique. Donc voilà, en 99, j'ai découvert cet art de la typographie. Là, je m'intéressais beaucoup aux courbes de Bézier, à l'art vectoriel. Donc toutes ces formes qui ont
L'art vectoriel.
c'est des formes graphiques qui ont la particularité de pouvoir être agrandies ou réduites à
Ah.
l'écran sans perdre de qualité. Et donc c'est comme ça que je suis venu à la typographie. Je me suis intéressé à la mise en page, etc. Et c'est comme ça que je me suis plongé dans ce monde
Donc
de la
vous faites un
typographie.
détour, enfin voilà, par les sciences,
Ah oui,
l'informatique, et
complètement. Oui,
oups, vous revenez à l'histoire de la
je suis
typographie.
autant un homme de chiffres que de lettres. Hein, donc mon métier c'est aussi un métier d'homme de chiffres puisque je suis comptable.
Ah oui.
Mais je me suis intéressé à cette typographie parce que bah j'écris, je calcule, et donc typographie fait un peu le pont aussi entre ces deux aspects, quoi.
Geoffrey Dorn.
Eh bien, en fait, c'est un peu un mélange des deux dans le sens où j'ai fait de l'informatique assez jeune également. Et par la suite, j'ai eu la chance d'étudier l'art, justement, le graphisme aux arts décoratifs à Paris. Et j'ai pu apprendre aussi ce que c'était que un caractère, une lettre, la composition typographique avec des anciens, entre guillemets, qui sont pas si anciens que ça, mais voilà.
Ouais.
Et surtout avec des écoles un petit peu, l'école un peu suisse, ou plutôt l'école française, etc. Donc d'avoir un aperçu de ce que ça pouvait être, les différentes manières de penser la typographie. Et donc c'est quelque chose de passionnant et qui demande beaucoup de patience. Et moi, c'est quelque chose qui m'a
Pourquoi ça
attiré.
demande de la patience?
Ben, c'est quelque chose où on peut régler presque lettre par lettre, où on peut passer vraiment du temps à s'attacher vraiment à une courbe juste pour un E, par exemple. Et on peut passer des journées sur un E. Et ça peut paraître un peu dingue de se dire qu'on peut passer
Non,
autant de temps
pas
pour
du
ça.
tout.
Et moi, c'est ce qui m'a plu, en fait, là-dedans. Et donc après, bah, une fois qu'on met le doigt dedans, on continue à apprécier ça, quoi.
Alors, Franck Adébiaï, sur votre site, il y a des manifestes. Il y en a un qui s'intitule le manifeste post-typographique, qui est assez récent. Je crois que c'est 2011, hein, l'an dernier. Et alors, il y a deux paragraphes. Je vais lire le second, qui me semble être complexe. Donc, nous, VTF, VTF étant votre fonderie, rejetons intrépide de la génération post-script, nous poursuivons à la vitesse de l'électron cet illustre cortège. C'est ce cortège qui compte des noms que vous avez énumérés précédemment, comme Excoffons, Boltana ou Blanchard, donc des grands typographes. Tel Spartacus, nous libérons les caractères du joug des règlements iniques et des conventions arbitraires. Tel Bénure sur un char gigantesque, nous accueillons Amazon et Aurige du script et tous formidables, armés de hallebardes bic et d'arbalètes à casseaux, coiffés d'un feutre à plumes de Béziers. Nous défions sans plus tarder l'époque aguicheuse et palimpseste. Alors, non mais ça fait grand texte, c'est un manifeste. Hein, bon. Mais déjà, il y a un terme qui m'intéresse, qui est génération post-script. Donc c'est ce qui pourrait vous réunir. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la manière dont se définissent ces typographes de votre génération. Qu'est-ce que ça veut dire, génération post-script?
Bah en fait, le PostScript, c'est un langage en fait de description de page, donc qui a été inventé par Adobe en 1982. À partir des courbes de Béziers, de Pierre Béziers, qui était un ingénieur français chez Renault, et qui s'intéressait aux formes des voitures.
D'accord.
Donc voilà. D'ailleurs, à la même époque, il y avait André de Casteljau qui travaillait chez Citroën et qui a aussi travaillé sur ce type de courbes. Sauf que c'est Adobe qui a pu récupérer
Donc,
cette
entreprise américaine.
entreprise américaine, qui a su quoi en faire et qui l'a mis dans un langage de description de page. Et à partir du moment où on arrivait à décrire ce qu'on faisait auparavant dans d'autres techniques sur ordinateur grâce à ce langage, bah la PAO a pu naître, la
Donc la
publication.
PO, c'est la presse assistée par ordinateur. Donc
Voilà, la presse et publication assistée par
publication.
ordinateur,
Ouais.
voilà. Donc
Donc c'est le fait que tout à coup, les gens dans les rédactions, notamment de journaux, se mettent tous à composer par l'ordinateur. Et donc vous, mais c'est quelles années ça?
c'est le langage date de 82, il a commencé à avoir des premières applications dès 1985.
Mais en quoi ça vous caractérise en tant que génération? Enfin,
Ben,
qu'est-ce que c'est?
parce qu'après, il y avait plus de, enfin, on était complètement dans le numérique, en fait, par rapport à ces
D'accord.
technologies-là, en fait.
Oui, et
Pauline
puis je crois que le rapport de notre génération à l'informatique, il est très très fort parce qu'on est né avec ça. Donc on a une relation d'affection et de découverte. On grandit avec lui. Donc je crois que le terme est tout à fait juste pour nous caractériser.
Et est-ce que votre idée, parce que ce que suppose le texte dans ce manifeste, c'est que c'est faire comme exploser les conventions. Qu'est-ce que ça veut dire ça du point de vue de la typographie, une ambition typographique,
Ça veut dire qu'on
Franck
peut,
Adébiaï?
on peut emprunter des chemins de traverse. On n'est pas forcément obligé de faire une école typographique pour faire des caractères, puisque à partir du moment où on commence à manipuler les courbes de Bézier, enfin ces formes un peu vectorielles sur ordinateur, ça peut donner des lettres. Alors après, on peut discuter sur l'esthétique de ces lettres, mais enfin, elles existent. Donc forcément, on peut effectivement briser des conventions, parce qu'on a plus forcément la férule des anciens, enfin, en tout cas pas forcément toujours à l'esprit.
C'est justement cette génération post-script qui ont eu les outils en main, et on a eu les outils en main pour pouvoir le faire. Donc après, en fait, tout était possible dans le sens où, une fois qu'on est capable de dessiner une courbe de Bézier, n'importe qui, entre guillemets, peut commencer à créer sa propre police d'écriture.
Ouais. Donc une des raisons pour lesquelles, mais ça on y viendra peut-être pour la question vraiment technique, mais c'est qu'il y a effectivement la possibilité pour tout le monde de s'emparer des techniques de création de caractères. Ça c'est. Et je me disais dans les raisons pour lesquelles il y a une sorte de mouvement comme ça d'agitation dans le monde de la typo, est-ce que c'est pas aussi le fait, parce que ça date aussi de quelques années, le fait que ça y est, comme je le disais. Introduction, c'est-à-dire que c'est acté le fait que maintenant on va lire sur les écrans. Et que du coup revient le caractère, la composition comme la forme ultime de rapport au livre parce qu'il n'y a plus le papier, parce qu'il n'y a plus le volume, parce qu'il n'y a plus tout ça. Est-ce que c'est une hypothèse valable, Pauline Nies, puis après Franck?
Oui, non, moi je crois que, pour faire juste un tout petit pas en arrière, ouais. Par rapport à ce qu'on disait, c'est vrai qu'il y a une appropriation et je crois qu'elle est générale, elle n'est pas vers la typographie. On voit avec le succès des mèmes, tout le monde utilise des logiciels de composition d'images. Enfin, je veux dire, tout ça est très libre, tout le monde le fait. Je pense que même les générations encore plus jeunes sont complètement les mains dedans, ont absolument pas besoin de formation pour faire. Donc tout le monde peut faire. Je crois aussi que c'est la naissance d'un nouvel espace du langage, de lecture, qui fait que voilà, on est témoin de ce que vous décrivez. Maintenant, je crois aussi que la typographie, le savoir-faire dépasse complètement en fait les technologies. C'est quelque chose qui a su s'adapter parce que ça doit s'adapter. Ouais. La typographie, elle est partout, elle est essentielle. C'est ce qui supporte la part matérielle en fait du langage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer. Donc elle a déjà vécu d'énormes transformations et là, on est en train d'en vivre une. Donc elle a cet éclat aujourd'hui, mais elle l'a eu auparavant également.
Franck Adelier.
Juste par rapport au PostScript pour nos éditeurs, le PostScript a donné naissance au PDF, qui est peut-être davantage connu du grand public, qui est un format qui est utilisé massivement sur Internet pour des tas d'applications, même des applications qui ne sont pas graphiques. Donc voilà, pour je voulais repréciser ça.
Et sur la question du livre, du fait que ce soit acté, le fait que voilà, on lira maintenant, on sait. Non mais je pense à ça parce que cette année ça a été l'année de la tablette. Bon, l'année de la tablette, c'est l'année au fond qui acte que bon voilà, on va lire là-dessus.
On lit sur écran.
Ouais. Bon, il y a effectivement ça dans le livre. Il y a la révolution effectivement du livre numérique, mais il y a aussi la révolution du livre à la demande.
C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que c'est ça?
Les livres à la demande, c'est des sites comme par exemple Lulu, Blurb, etc., qui vous permettent d'imprimer des livres à la demande. Des particuliers peuvent décider de faire leur propre livre, etc. Et pour faire ces livres, il faut passer aussi par ce format PDF. Donc les gens, à partir du moment où vous arrivez à maîtriser cette technologie, et comme c'est un format qui s'est énormément popularisé, mais ils ont la possibilité aussi de prendre les choses en main. Quoi.
Donc du coup aussi la mise en page, la typo, etc.
Voilà.
D'accord.
Il y a une dimension matérielle et il y a une dimension immatérielle dans ce livre. Donc, c'est deux révolutions en une. Quoi.
Et ça incite à une sorte de, je sais pas, créativité.
Par exemple, sur les livres à la demande, il y a eu 2 millions de livres à la demande qui ont été créés l'année dernière. Donc, c'est un secteur en pleine.
Dans le monde ou en France?
Dans le monde.
Mais ah oui, 2 millions de livres à la demande.
C'est souvent des tirages très limités, mais c'est quand même un essor énorme. Et puis, bon, le livre numérique, effectivement, il y a un essor considérable. C'est déjà 10% des ventes aux États-Unis, donc ça commence à peser.
Sur cette question du livre, quand même, je voulais juste y revenir parce que, au fond, est-ce que la typo, c'est pas le dernier, je sais pas, rapport émotionnel qu'on a un livre quand le papier a disparu?
Quand le papier a disparu, il reste malgré tout. Enfin, la typo aussi, il y a une part de ça. Il y a aussi la mise en page, il y a aussi tout ce qui tourne autour de la typographie, on va dire. Mais une fois que le papier a disparu, en fait, ce qui est intéressant avec la typo numérique sur écran, c'est qu'elle devient vivante à nouveau avec l'hypertexte, avec le lien, avec la couleur, avec le fait qu'une typo puisse bouger sur un écran, puisse changer de taille dynamiquement. Et pour moi, ça, en fait, on parle souvent du rapport affectif au livre. Je pense qu'il y a vraiment un rapport affectif aussi à la lecture sur écran. Par exemple, quand on met des gens devant le premier chat de Caramel, ils retrouvent les couleurs, ils retrouvent la typo du chat de Caramel. Et tout à coup, il y a un côté un peu émotionnel derrière ça. Et en fait, pour moi, les deux, en fait, peuvent provoquer, dans tous les cas, des émotions liées à la typo et à l'écriture. Oui.
Ah oui, c'est intéressant, ça, il y a une émotivité de la typo numérique polynésienne.
Moi, je crois qu'il y a une très grande affectivité, effectivement. Enfin, pour avoir parlé avec le néophyte, hein, puisqu'on peut
qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment, hein, vous inquiétez pas.
On se rend compte à quel point, en fait, sur n'importe quel logiciel de traitement de texte, le choix du caractère est un moment toujours, baigné d'émotions. J'ai voulu le composer en garamond, ça fait très chic. J'ai voulu le composer en Comic Sans, parce que je sais qu'on va en parler.
On reviendra sur la question du Comic Sans, gros problème.
Plus tard à ça. Mais c'est vecteur d'émotions, parce que ça porte une histoire, une culture qui peut être vernaculaire, inconsciente, enfin qui peut porter vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais qui est très importante pour les gens.
Franck Adébiaï.
Alors justement, par rapport à cette question du livre numérique, là, cette fois-ci, même le législateur a dû s'emparer de ce problème du livre numérique, parce qu'il a fallu définir ce que c'était qu'un livre numérique, parce qu'il y a eu les questions de TVA sur le livre qui ont dû évoluer. On a voulu aligner la TVA du livre papier et la TVA du livre numérique à 7%. Et le législateur a dû définir le livre numérique comme étant le texte et ses variations typographiques. Mmh. Et ça figure noir sur blanc dans la loi. Donc même au niveau des législateurs, qui pourtant pas censé être un spécialiste de la typographie, il y a quand même cette préoccupation.
Ah oui, c'est intéressant ça. Bon, on va continuer à en parler, puis on va aborder aussi les questions plus techniques, parce qu'au fond, c'est des questions culturelles, c'est des questions esthétiques, on le verra tout à l'heure, mais ce sont aussi des questions techniques. Et ce mouvement, il est aussi un mouvement technique, mais tout de suite, l'Internet Explorer, Thibaut Henton. Bonjour.
Bonjour.
Alors, votre point de départ.
Alors, tout cela est parti, soyons transparents, d'une conversation avec vous, Xavier. Voilà, on se demandait ce qui pourrait constituer la trame d'une émission prochaine, voyons. Et en ce moment, nous disions, il y a deux actualités assez décisives qui ont tout à voir avec Place de la Toile. D'abord, les nouvelles fuites de Wikileaks il y a 2 semaines. La fuite concerne des millions de mails d'une entreprise texane, Stratfor, une sorte d'agence de renseignement privée. Stratfor se présentait comme une CIA fantôme au service d'entreprises comme Bhopal ou Coca-Cola qui s'y abonnent moyennant jusqu'à 40 000 dollars par an.
US intelligence agencies how to become like them. This is an organization that does not just.
Cette entreprise ne fait pas seulement de la collecte d'informations, elle arrive à récolter des informations contre des pots de vin, des sources internes, mais elle agit aussi sur cette information pour déstabiliser certains groupes, dont Wikileaks.
On entend là Julian Assange.
On l'a reconnu, sa voix porte-parole de imitable. Wikileaks.
Donc c'était lors d'une conférence de presse. La presse, justement, qui a très peu repris l'affaire. Alors faut-il comprendre qu'il n'y a là rien d'intéressant, que cette CIA fantôme est en fait une CIA fantoche, peu crédible dans les milieux du secret? Faut-il comprendre qu'Assange est un gros parano conspirationniste quand il dit qu'il y a dans les mails de Stratfor des révélations concernant Wikileaks eux-mêmes? Bon, je cherche un peu et trouve un article intitulé « Assange inculpé, le regrettable silence des journalistes ». Donc je clique « Assange inculpé », tiens, mais c'est nouveau ça, non?
Michael Ratner, welcome to Democracy Now, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman. The whistleblowing website WikiLeaks has published an internal email.
Donc parmi les courriels qui ont fuité, en fait, on l'entend dans cet épisode de Democracy Now, on trouve le mail d'un ancien responsable du contre-espionnage au département d'État, envoyé à Fred Burton, qui est le vice-président de Stratfor. Ce mail le dit, à ne pas rendre public, nous avons un acte d'accusation secret contre Assange. Please protect. Et un autre mail de Burton qui dit ceci, Assange fera une belle mariée en prison, putain de terroriste, il va bouffer de la pâtée pour chat pour le restant de ses jours. En bref, le gouvernement américain essaierait de condamner Assange et Bradley Manning, le responsable de la précédente fuite. Là,
présumé.
Présumé, oui, présumé. En se servant donc de la loi sur l'espionnage de 1917, car Wikileaks ne doit surtout pas être considéré comme un média dont le but est de collecter de l'information en vue d'informer le public sur des sujets d'intérêt général. Considérer Wikileaks ainsi, c'est protéger Assange par le premier amendement sur la liberté d'expression, d'où l'acte d'accusation secret, acte que les États-Unis n'ont pas confirmé, mais n'ont pas infirmé non plus. La deuxième actualité importante, c'est le vote, mardi dernier à l'Assemblée de la loi sur la nouvelle carte nationale d'identité biométrique.
Comment rendre la carte d'identité infalsifiable? Les députés ont imaginé cette nouvelle version dotée de 2 puces. La première contient votre état civil et des données biométriques. La deuxième, facultative, sert de signature électronique pour accéder à des services administratifs et commerciaux.
On en avait parlé ici même. Loi qui prévoit aussi la constitution d'une base, d'un grand fichier où seront conservées les données biométriques de chaque titulaire de la nouvelle carte. Alors, que conclure...
Fichier des gens en net.
Voilà, comme il a été surnommé. Que conclure de ces deux actualités ? Qu'il y a une tension manifeste, tension qui oppose d'un côté les défenseurs anonymes d'une transparence qui veut pointer les excès du pouvoir et de la surveillance, et d'autre part, eh bien, ceux qui incarnent le pouvoir, qui, eux, sont plutôt connus en général, et qui défendent le secret au nom de la sécurité, mais également la transparence quand il s'agit de fichiers. Sans secret, pas de savoir privilégié, et sans savoir, pas de pouvoir. Lundi dernier, la veille du vote de la loi, donc, à très exactement 13h34, je poste sur mon compte Facebook l'article d'OVNI de Jean-Marc Manac intitulé « Demain, on fiche ». Un cousin à moi commente « Des fans d'Orwell à l'Assemblée ». Évidemment, Orwell, la surveillance généralisée, tout ça. Qu'aurait-il écrit Orwell en voyant la question de la transparence ressurgir aujourd'hui avec tant de force ? Je tape « écrit Orwell » dans mon moteur de recherche. Et vous vous souvenez, Xavier, du site Letters of Note ?
Ouais, on avait publié la lettre d'un ancien esclave.
Bon, c'est un site qui expose en pleine lumière des documents jusque-là enfouis. Eh bien, la perle de la semaine, c'est Phil en fait qui l'a découverte sur syndis.net, c'est une lettre reçue par Orwell en 1949, quelques mois après la parution de son fameux 1984, une lettre que lui a envoyée Aldous Huxley, qui, 17 ans plus tôt, avait lui aussi imaginé une dystopie dans Le meilleur des mondes. Extrait. Wrightwood, 21 octobre 1949. Cher Monsieur Orwell, merci de m'avoir fait parvenir un exemplaire de votre ouvrage. Je n'ai pas besoin de vous dire une fois de plus à quel point votre livre est profond. Puis-je parler plutôt de ce qui est au cœur de celui-ci, la révolution ultime ? Je crois plutôt, de mon côté, que l'oligarchie en place trouvera des façons moins pénibles et ruineuses de gouverner et de satisfaire sa soif de pouvoir. Ces façons ressembleront à celles que je décris dans Le meilleur des mondes. Bien à vous, Aldous Huxley. 1984 et Le meilleur des mondes. Deux conceptions du pouvoir, deux conceptions de ce jeu entre secret et transparence. Huxley, manifestement, préfère la sienne.
Logique.
Si vous tapez Orwell Huxley sur YouTube, vous tombez sur ça. Orwell contre Huxley, peut-être qu'ils avaient vu juste tous les deux. Une vidéo qui met en scène une bande dessinée qui compare les deux auteurs à la lumière moderne. Orwell craignait ceux qui nous priveraient d'informations, Huxley ceux qui nous en donneraient tant que nous serions réduits à la passivité et l'égoïsme. Orwell craignait que la vérité nous soit cachée, Huxley que la vérité soit noyée dans une mer d'insignifiance. En somme, conclut la BD, Orwell craignait que notre ruine viendrait de ce que nous détestons, là où Huxley la voyait poindre dans ce que nous adorons. Alors, avantage Huxley.
Laissez parler des petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Est-il un soir papier buvard, vous consoler.
Laissez brûler les petits papiers. Papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer.
Un peu d'amour, papier velours.
Merci Thibaut et puis merci pour la reprise des petits papiers par Logistique. On entendait la voix de Jeanne Balibar, de Rodolphe Burger, mais je n'ai pas reconnu la troisième voix. Place de la Toile, magazine des cultures numériques où nous discutons ce soir de typographie avec Pauline Nouniès, Franck Adébiaye et Geoffrey Dorn. On a parlé un petit peu de l'effet générationnel, la génération post-script. Venons-en aux questions techniques elles-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons strictement techniques à l'essor récent, au renouveau récent, au mouvement récent qui a lieu dans la typographie, et là je parle de la typographie numérique, je sais pas, intuitivement comme ça, je me disais, voilà, le fait, je sais pas, HTML5 par exemple, qui est le langage qui se répand pour fabriquer des sites internet de plus en plus, est-ce que par exemple il offre des possibilités typographiques que n'offraient pas les dernières versions d'HTML Geoffrey Dorn?
En fait, on a justement avec le HTML5, on a quelque chose qui s'appelle le CSS3 qui est sorti à peu près à la même période, et on a une balise qui s'appelle la balise font face et qui permet d'intégrer par exemple n'importe quel typo sur un site internet à l'heure où on était contraint à utiliser des typos très classiques, le Times, le Myriad, etc. Là, tout à coup, on a la possibilité de mettre n'importe quel typo, donc le choix est beaucoup plus grand. Ça pose beaucoup de questions aussi dans les licences de typos, ça, Franck, on parlera très bien.
On va y venir, évidemment.
Mais en fait, tout à coup, la possibilité étant beaucoup plus grande, le choix étant beaucoup plus grand, c'est un peu comme tout à l'heure où on se dit, tiens, je crée un site quel typo je vais pouvoir choisir. Et on est tout à coup devant un plaisir du choix de la typographie et devant le fait d'éditorialiser aussi son site en fonction de la typo et de lui donner une teinte typographique et de pouvoir jouer aussi avec beaucoup plus de typographie, etc.
Et juste, je pose une question toute bête, mais que celui qui fabrique le site puisse, avec ces langages-là, choisir des formes de typo très différentes, est-ce que ça implique directement que celui qui va recevoir le site, qui va le regarder, va pouvoir lire cette forme de typo?
Exactement, oui. Tout
à fait. C'est ça permet les deux. Oui, non, d'accord.
Okay. Les deux pourront voir exactement la même typo.
Jusqu'ici, c'était vraiment quelques typos hyper répertoriés, enfin très classiques.
Voilà, à peu près.
Oui, d'ailleurs, je voudrais faire une sorte d'auto-promo parce que justement, donc, on a lancé il y a une semaine ce site d'actualité.
Point typo. Hein.
Point typo. Et justement, c'était pour nous l'occasion, et ça, grâce à Jean-Baptiste Levé et Jérémy Baboukian, qui sont mes deux acolytes, de tester ces nouvelles technologies puisque le titrage est composé en New Fournier, donc qui est un caractère suisse d'une fonderie qui s'appelle BP
qui
est très très récente, qui est sortie cette année.
Ah oui,
voilà, et du Cogito qui est signé Jean-Baptiste Levé et qui est une fonte pour le moment qui n'est pas encore sortie. Donc voilà, c'est pour nous des expérimentations qu'on fait avec plaisir de pouvoir utiliser aussi le fruit de notre travail en ligne.
Ah ouais, et donc du coup, est-ce que ça veut dire que en gros tout est possible aujourd'hui, en termes typographiques, quand on fabrique un site?
On peut faire un site uniquement avec de la typo, par exemple. Et là, on peut choisir toutes les typos qu'on veut. On peut, par exemple, il y a certaines typographies dans lesquelles on vient mettre des images. Donc, à la place de mettre des images sous forme de fichiers images, on peut se servir, par exemple, de mettre une typo à la place. Donc, tout à coup, tout peut être typo sur le site. Après, bien sûr, on peut aller dans les excès, évidemment. Mais devant ce choix-là, on peut vraiment se faire plaisir et mettre vraiment la place, une place d'honneur pour la typographie sur le site internet, que ce soit pour les titres ou pour le corps de texte.
Et Franck Adébiaï, est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi, parce que ça pose des questions juridiques, vous l'avez dit, les typos, c'est-à-dire que quand on, enfin, alors je sais pas si c'était comme ça sur internet, mais en tout cas dans, je sais pas, si on crée un magazine et qu'on utilise une typo répertoriée, eh ben on paye la possibilité d'utiliser cette typo. Bon, d'abord, est-ce que c'était la même chose sur internet? C'est-à-dire, est-ce que quand vous fabriquiez un site avec une typo répertoriée, vous étiez obligé de payer? Déjà, est-ce que c'était le cas?
Disons, avant, on utilisait les polices qui étaient installées sur le système. Donc, en fait, cette question-là était réglée.
Était réglée par le fait que c'était installé en amont.
En amont. Bon. Maintenant, effectivement, c'est la même problématique qu'on avait quand on faisait un magazine et qu'on mettait ça dans un PDF. Il fallait quand même avoir une licence pour utiliser la fonte. Mais ce qu'il y a, c'est que, étant donné que techniquement, c'est possible...
Ouais.
C'est devenu techniquement très tentant de le faire en outrepassant éventuellement les licences.
Donc il y a des piratages de licences typo de la même manière qu'il y a des piratages de droits d'auteur, de fichiers,
etc. C'est même pire que ça, c'est en fait les gens ont découvert qu'il y avait des licences. En fait.
Ah, c'est par ça.
La même occasion.
Oui, parce que en fait avant on se posait pas la question parce que de toute façon c'était pas possible et c'était réservé quand même à des initiés. Bon, il y avait déjà du piratage déjà dans le monde du print, comme on dit, de l'imprimé. Mais dans le monde du web, il y a beaucoup plus de webmasters qui peuvent justement recourir à la typographie. Il y a des sites internet qui permettent de convertir dans des formats web des polices de caractères sans forcément vérifier que la personne soit l'a acheté, soit a le droit de convertir la typographie. Donc évidemment, ça a remis, on va dire, le caractère typographique au centre du débat, même en tant qu'objet juridique. Et ça synthétise toutes les problématiques qu'on a eues autour de l'Adopi,
autour
du logiciel, parce que la typographie, c'est à la fois une œuvre artistique, parce que c'est un dessin, mais c'est aussi un programme informatique. Donc c'est un objet juridique d'une complexité.
Alors j'imagine qu'il y a aussi, donc du coup, il y a un mouvement de typographie open source, logiquement.
Exactement. Il y a un mouvement, effectivement, de typographie open source, oui.
Et qui est vif, enfin...
Qui est vif, moi je crois qu'on peut citer, enfin Franck, comme tu es plus spécialiste, tu en parleras plus précisément, mais je voudrais souligner quand même l'extrême réactivité des fonderies professionnelles, enfin qui sont des commerçants de fontes, qui ont vu ces formats arriver et qui ont développé ces formats assez rapidement, et aussi parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de fonderies uninominales, c'est-à-dire des gens qui vendent eux-mêmes leur travail, ont compris que ça aussi si ça arrivait et ont développé ces formats-là. Donc ça, c'est arrivé très très vite. La deuxième chose, c'est aussi le service proposé par Google Web Fonts.
Alors qu'est-ce que... Alors, c'est Franck Adébiaï qui est au téléphone. Moi, je ne savais pas du tout. Donc Google a créé une fonderie de caractères. Donc fonderie numérique, évidemment, de caractères. Mais pourquoi?
Avec les nouveaux standards, je pense que Google, étant très près des nouvelles technologies, a vu que c'était quelque chose qui allait devenir normal, enfin un nouvel usage, en fait, de ce choix typographique. Mais ce qui est très étonnant, c'est que Google Web Fonts, j'ai pas en tête exactement à quel moment ça démarre, avec quelques caractères. Et là, aujourd'hui, on a un choix de, je pense, de milliers de caractères.
Ça marche comment? C'est des gens qui viennent mettre leurs caractères dans la fonderie Google.
Google peut commissionner quelqu'un, on peut proposer un projet qui est rémunéré et qui est ensuite distribué par Google. Oui. Voilà.
Google Web Fonts, ça a démarré en 2009. Ça a commencé à prendre son essor en 2010. En fin 2011, ils avaient à peu près 23 familles différentes de caractères, 23 styles, on va dire. Et avec ça, ils avaient autant de trafic que les sites payants qui proposaient 5000 fonts. Donc, il y avait un trafic considérable. Aujourd'hui, ils en sont à 466, d'aujourd'hui. Donc, on arrive à un trafic qui est gigantesque. L'objectif de Google, c'est d'augmenter l'indexabilité du web. Parce que Google, ce qui les intéresse, c'est que justement le texte soit pas emprisonné dans des images ou dans les formats, on va dire, type Flash, etc. Le but, c'est que tout le web soit indexable.
Donc Google, enfin, la logique, c'est de se dire, Google dit, comme nous, notre commerce, c'est l'indexation, il faut pas que les gens travaillent trop l'image, il faut mieux que les gens mettent leur créativité dans le texte, parce que quand ils la mettent dans le texte, nous, ça nous sert, parce que ça permet de continuer notre travail d'indexation.
Ils
sont quand même extrêmement malins.
Ils sont très malins, parce qu'ils ont même mis en place des outils pour justement mettre les typos directement sur son site. Donc, sur Google Web Fonts, on peut choisir les typos, on peut les télécharger, mais on a aussi des outils qui permettent, juste en copiant-collant une ligne de code dans son site, d'utiliser la typo sans avoir besoin de la télécharger, sans avoir besoin de comprendre quoi que ce soit de la technique, et de façon très très simple. Et ça, justement, c'est comme ce que dit Franck, c'est que c'est vraiment dans leur esprit que tout soit texte. Et si tout était texte, Google serait le plus heureux du monde.
Ah, et en plus, ils peuvent suivre les statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une ambition cybernétique. Enfin, là, c'est orwellien ou...
Mais selon vous, ça peut avoir une influence forte sur ce que c'est que la typographie numérique.
Ça a une influence considérable, et puis ça déstructure le secteur. Enfin,
ça déstructure le secteur?
Parce que Google a des moyens financiers qui sont considérables. Les fonderies, en fait, hein, parce qu'il y a quand même des fonderies, des gens qui sont des professionnels de la typographie, qui en vivent, etc. Donc on peut citer Typo Fonderie, le bureau des affaires typographiques en France, parmi tant d'autres. Enfin, il y en a beaucoup. C'est quand même des professionnels qui sont chahutés par, on va dire, une sorte de concurrence déloyale de la part de Google qui a des revenus mais énormes,
quoi. Et qui propose toutes ces typos gratuitement
et qui les commissionne mais à des tarifs dérisoires. C'est 1000 dollars, mais c'est rien pour Google.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve devant les mêmes problématiques avec l'image, avec la musique, avec la vidéo. Tout à coup, on se retrouve dans une diffusion très très large. Tout le monde peut s'en servir. Le MP3, c'est pareil, tout le monde peut le télécharger. Et tout à coup, la typo, c'est les mêmes contraintes, c'est les mêmes soucis. Et donc, on voit que les fonderies commencent à mettre en place des façons d'encapsuler ou de crypter les typos, de séparer les fichiers typographiques pour pas qu'on puisse les télécharger. Comme si on pouvait ne pas télécharger un MP3 ou une vidéo. Donc la guerre, en tout cas, à l'impossibilité de télécharger une typo a commencé. Pour l'instant, est encore en échec. On peut toujours arriver à télécharger la typo qu'il y a derrière un site.
Ah ouais. Mais cette guerre, alors si j'essaie de bien comprendre, donc il y a Google, il y a des fonderies, mais qui sont des fonderies grosses, j'imagine.
Il y a une concentration à l'heure actuelle. Il y a même une fonderie à l'heure actuelle, donc qui est la fonderie Monotype, hein, qui est la plus grosse fonderie au monde, qui rachète.
Qui est où?
Qui est aux États-Unis, qui est même là actuellement, et ils sont menacés par la loi antitrust, parce qu'ils commencent à avoir un tel mouvement de concentration que voilà. Mais c'est un secteur qui se structure parce que voilà.
Et, c'est quoi la place de tout ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la place de vous, par exemple, enfin je sais pas, de vous VTF, Franck Adébia, et de vous Pauline Nunez, quand vous créez des typos, des petites. C'est quoi votre place là-dedans quand on a d'un côté Google, de l'autre Monotype, enfin des énormes acteurs. Et vous, c'est quoi votre?
C'est proposer de la qualité, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est l'aspect qualitatif qui fait toute la différence. Et d'ailleurs, sur la profusion de nouvelles fonds qu'on trouve sur Google, autant au début, il y avait des fonderies qui avaient proposé des familles de caractères qui étaient assez intéressantes, et aussi ça permet d'offrir des choix esthétiques qui sont intéressants pour tout le monde, en fait. Donc ça c'est très très bien. Mais dans la profusion, il y a quand même beaucoup de choses qui, d'un regard strictement professionnel, sont de mauvaise qualité.
Voilà. Alors on va parler d'esthétique, on va consacrer la dernière partie à ça, parce que finalement on n'a pas parlé de ça depuis le début. Mais tout de suite, la lecture de la semaine. « La lecture de la semaine, elle prolonge un texte d'il y a 15 jours qui répondait à la question « Pourquoi Facebook est-il valorisé en bourse à 100 milliards de dollars ?» Alors on se souvient que la réponse du texte, c'était que la valeur de Facebook, c'était nous, hein, ce qu'on produisait. Le texte d'aujourd'hui, c'est un entretien donné à Al Jazeera par Michael Bowens, qui est le fondateur de Peer-to-Peer Foundation. Il va plus loin et lui, ce qu'il examine, c'est carrément les effets à long terme sur le capitalisme. Ce qui est important, explique Bowens, c'est que Facebook n'est pas un phénomène isolé, mais participe à une tendance plus lourde de notre société. Une croissance exponentielle de la valeur d'usage produite par le public. Il est important de comprendre que c'est là un énorme problème pour un système capitaliste, dit Bowens, mais aussi pour le travail tel que nous le concevons traditionnellement. Les marchés, dit Bowens, peuvent être définis comme une manière de répartir des ressources rares. Bon, le capitalisme, c'est pas simplement un système de répartition de la rareté, c'est aussi un système de production de la rareté qui ne permet l'accumulation du capital qu'au prix d'une reproduction et d'un développement des conditions de la rareté. Où il n'y a pas de tension entre l'offre et la demande, il ne peut pas y avoir de marché et d'accumulation du capital, dit Bowens. Et ce que nous faisons dans les réseaux, en produisant des entités pour le moment intangibles comme de la connaissance, des logiciels, du design, c'est-à-dire aussi ce qu'on fait dans Facebook, dans Google, mais ce qu'on fait dans Wikipédia, ce qu'on fait en créant des logiciels libres, c'est de créer une abondance d'informations et de connaissances. Et cela ne peut pas être traduit directement en valeur d'échange, parce qu'il n'y a plus de rareté. C'est trop abondant. Et cette activité de surcroît est fournie par des travailleurs de la connaissance dont les rangs grossissent régulièrement. Cette offre surabondante menace de précariser les emplois de ces travailleurs de la connaissance, d'où un exode croissant des forces productives en dehors des systèmes de monétisation existants. Dans le passé, dit Bowens, à chaque fois qu'un tel exode a eu lieu, les esclaves dans l'Empire romain déclinant ou les serfs à la fin du Moyen-Âge, et bien cela a créé des conditions de bouleversement majeures dans l'économie et la société. Alors le problème est suivant, dit Bowens. Sur Internet, la collaboration a permis la création de valeurs d'usage d'une manière qui dépasse de beaucoup le fonctionnement normal de notre système économique. Normalement, les augmentations de productivité sont d'une manière ou d'une autre récompensées. Bon. Et ces récompenses, elles permettent aux consommateurs d'augmenter leurs revenus et d'acheter des produits. Mais cela n'a plus cours aujourd'hui. Les usagers de Facebook et de Google créent de la valeur commerciale pour ces plateformes, mais en aucun cas, ils ne sont récompensés pour la création de la valeur. Comme ce qu'ils créent n'a pas d'existence sur le marché des biens rares, eh bien, ces créateurs de valeur ne perçoivent aucun revenu. Les plateformes des médias sociaux ouvrent une faille importante dans notre système économique. Alors, Bowen constate ensuite que le phénomène ne se limite pas à la connaissance et logiciel, mais qu'il y a une tendance qui commence à émerger dans la production de biens manufacturés qui fonctionnent de la même manière. D'où une série de questions qu'il pose. Il dit, bon, de telles évolutions sont bonnes pour la planète et pour l'humanité. Mais la vraie question est, sont-elles bonnes pour le capitalisme? Que se passe-t-il pour le capitalisme si, à grande échelle, les échanges se font sur le modèle des médias sociaux, si la production se fait sur le modèle des communs? Que se passe-t-il si une part toujours plus grande de notre temps est consacrée à la production de la valeur d'usage, une fraction seulement restant pour créer de la valeur monétaire, mais qu'aucun revenu substantiel n'est perçu par les producteurs de cette valeur d'usage. La crise financière entamée en 2008, dit Bowens, loin de diminuer notre enthousiasme pour le partage et la production entre pairs, est un accélérateur pour l'adoption de ces pratiques. C'est pas seulement un problème pour des travailleurs de plus en plus précaires, c'est un problème pour le capitalisme lui-même, qui voit s'assécher ses chances d'accumulation et d'expansion. Le monde n'a pas seulement à faire face à une crise globale des ressources, mais il est devant une crise de développement, car les producteurs de valeur sont de moins en moins rémunérés. L'économie de la connaissance tourne à la chimère. Ce qui est abondant ne peut pas soutenir les dynamiques de marché. Nous avons donc une croissance exponentielle de la création de la valeur d'usage, mais avec une croissance de la valeur monétaire qui est seulement linéaire. Si les travailleurs perçoivent de moins en moins de revenus, qui achètera les biens vendus par les entreprises? Voilà la crise de valeur à laquelle l'humanité fait face, dit Bowen. C'est un défi aussi important que le changement climatique ou l'augmentation des inégalités sociales, selon lui. L'effondrement de 2008 n'est même qu'une préfiguration de cette crise. Existe-t-il une solution, dit Bowen? Oui, mais elle induit une adaptation du capitalisme à la production entre pairs, ce qui ouvrirait la voie à un dépassement même du capitalisme. Rien que ça. Vous retrouverez cette lecture lundi sur Internet Actu, tout de suite près de la machine, le choix musical de Billy Gidoni. Safina du groupe Secret Chief 3, extrait d'un album datant de 2001. Voici ce qu'en dit Billy Gidoni, musique issue de partout dans le monde, pouvant se vanter de brouiller les frontières entre musique électronique, musique traditionnelle et rock progressif. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, où nous parlons ce soir de typographie avec Pauline Nunez, Geoffrey Dorn et Franck Adebiaye. Alors venons-en, comme vous aviez fait toute seule, Pauline Nunez, la transition merveilleusement, à la question esthétique. On a parlé de la profusion, on a ébauché quelques raisons à cette profusion, mais alors qu'est-ce que ça donne du point de vue esthétique? Est-ce qu'on est aussi à une période où se crée en termes de typo, des choses intéressantes, des caractères intéressants, des mises en page intéressantes? Est-ce que c'est aussi une effusion esthétique, Pauline Nunez?
C'est pas facile de répondre comme ça à brûle pour point, mais je crois qu'il y a quelque chose que je constate. C'est que peut-être avant, et sans doute dans cette image un peu datée des vieux grincheux de la typographie ou de cette espèce d'école poussiéreuse, bon, il y a quand même une histoire, un patrimoine très très important en France, et on en est les légataires.
Les produits aussi.
Les produits, exactement. Mais je crois qu'aujourd'hui, un étudiant ou quelqu'un qui s'intéresse à la typographie et qui crée dépasse tout de suite les frontières. On voit les gens qui vont étudier en France et puis en Hollande, en Angleterre, en Suisse. Et tout ça crée un mélange de formes qui peut-être avait moins lieu auparavant. Donc je dirais que s'il y a un intérêt, c'est peut-être là, parce qu'il y a quand même des écoles esthétiques. Bon, on ne va pas faire un cours de l'histoire de la forme typographique.
Ouais, quoi que ce serait l'occasion peut-être une fois.
mais c'est vrai qu'entre des écoles qui sont très rationnelles, d'autres plus sensibles, plus portées vers le dessin, on voit vraiment des créations qui sont entre les deux. Et puis, c'est vrai que l'avancée des technologies permet aussi dans le dessin, avec l'arrivée d'OpenType, de créer des véritables petites programmations.
OpenType, c'est un logiciel de programmation.
Alors, ce n'est pas un logiciel de programmation. Peut-être que Franck peut faire un petit topo plus précis que moi sur le sujet.
En fait, l'OpenType... Franck Adebiaye. L'OpenType, c'est un moyen, en fait, c'est un format... multiplateforme, donc qui fonctionne à la fois sur PC, sur Mac, sur Linux, et qui en même temps supporte un codage très étendu aussi de langues, parce que ça résout ces deux problèmes-là. Parce que dans les premiers temps, un caractère typographique sur un Mac ne pouvait pas passer sur PC. Ça paraît incroyable, mais et de même, pour ça ne supportait pas forcément toutes les langues. Il fallait parfois charger une autre fonte pour pouvoir changer de langue. Alors que là, on peut tout mettre dans une seule fonte.
Et sur la question esthétique, qu'est-ce que vous en pensez, Franck Adebiaye?
Je pense que sur la question esthétique, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que ça devient de plus en plus, il y a une plus grande perméabilité entre la typographie et la culture. C'est-à-dire dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des références dans la culture populaire à la typographie. Il y avait cette chanson Bravo Futura, mais il y a aussi des références dans des films. Je cite très simplement un film pourtant très grand public qui s'appelle Mes meilleurs amis, qui est une sorte de very bad trip féminin. Mmh. Où à un moment donné, il parle des cartons de mariage et il cite un caractère typographique qui s'appelle le monotype cursiva.
Ah oui, d'accord. Donc l'intégration de la typographie dans une culture très populaire.
Ça vient dans la culture populaire. Et d'autre part, à contrario, dans la typographie, il y a des références à la culture populaire.
Par exemple
Par exemple, le caractère Jean-Luc, donc en hommage à Godard, par l'atelier...
Godard de la culture populaire. Non mais vous avez la tête où, Franck Adebiaye?
On est sur France Culture.
Oui, c'est vrai.
Et donc...
Donc une fonte en hommage à Godard.
Oui,
ça donne quoi?
C'est une fonte de titrage sans
avec des lunettes
assez carré,
voilà.
Mais c'est inspiré des intertitres.
Qu'il y avait dans les
très très importants.
Ah oui, c'est pas un hommage au corps de Godard.
Non,
d'accord.
C'est un autre cas de recherche qui pourrait être intéressant.
Donc c'était pour son anniversaire, en fait. C'était pour ses 80 ans, je crois. C'était bravo Jean-Luc, ils ont fait cette.
Ah, c'est drôle ça.
C'est un atelier, l'atelier Carvalho, donc au Pays-Bas.
Mais donc effectivement, double mouvement d'intégration entre la typo et la culture. Geoffrey Dorn, sur cette question esthétique.
Sur ces questions-là, en fait. Comme le dit Franck, il y a un mélange entre la culture populaire d'une part, et après il y a aussi la redécouverte des outils. On se retrouve à faire des typos qui peuvent bouger, des typos qui peuvent changer de forme. Il y a le format SVG qui permet d'avoir de mettre des formes vectorielles sur une page web, par exemple. Et donc du fait que c'est que du code, on peut peut par exemple changer la couleur d'un texte de façon dynamique, ou sa forme, ou sa taille, le remplir, etc.
Ça, par exemple, ça veut dire concrètement pour l'usager que, ah oui, c'est que vous faites, il ouvre une page web et tout à coup le texte peut être mouvant, changer de
exactement.
Forme, de composition, etc. Ah ouais, c'est extraordinaire.
Avec la mobilité aussi sur nos téléphones mobiles, sur les tablettes, etc.
Ah ouais.
On a du texte qui peut éventuellement être géolocalisé. Voilà, si je suis à tel ou tel endroit, la typo peut changer.
Donc en Suisse, Helvetica.
Exactement.
C'est un lieu commun, mais je ne suis pas fort en typo.
On a de l'Oriole en France, etc. Très bien aussi. Mais donc voilà, ça ouvre beaucoup de champs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la culture en général, on peut s'intéresser à des choses très précises. Et tout à coup, la typo peut également s'introduire dans ces choses très pointues. La typo et la musique, la typo et le côté geek. Tu parlais des mèmes tout à l'heure, Pauline.
Oui, oui. Hipster Ariel.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Hipster Ariel, c'est donc Ariel, la petite sirène de Walt Disney, avec des Ray-Ban de hipster et qui dit Call me Helvetica, I'm not Arial, I am Helvetica.
Ah,
voilà.
Donc il y a une culture.
C'est compliqué ça. Thibaut fera une explication de la blague
sur le
site.
Oui, oui, excusez-moi,
il est manifestement très tard. Est-ce qu'il y a des controverses esthétiques au sein de la typographie? Je pense, il ne reste pas grand temps, mais qu'il faut aborder cette question.
Finissons-en avec le Comic Sans.
Voilà, le Comic Sans. Donc pour les auditeurs, le Comic Sans, ils pourront aller sur leur traitement de texte et essayer le Comic Sans, voir ce que c'est.
C'est dessiné par Vincent Connard, on peut le préciser.
Vincent Connard a dessiné le Comic Sans. Alors, par exemple, pourquoi le Comic Sans, par exemple, ça pose problème en termes typographiques, François Desbiens?
Je dirais que c'est un problème de plasticité de la forme. En fait, ce qui est trouble, c'est que ça fasse ce côté un peu pâte à modeler, très 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 populaire, ça choque, on va dire.
Oui, mais ça, c'est sa nature.
C'est sa nature.
C'est sa nature. Donc, est-ce qu'on peut critiquer la nature de quelqu'un? Je sais pas. On va pas aborder ça maintenant, mais.
Non, mais par exemple, pourquoi ça fait problème Comic Sans?
C'est l'usage qui a posé problème aux graphistes, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est joyeux, ludique, et tout le monde s'en est emparé en disant je fais mon pot de départ, ça va être fun, je mets toutes les couleurs, et on l'a vu absolument partout, et ça a énervé les graphistes. Maintenant, dans un bon usage, c'est un très bon caractère.
C'est devenu une typo vraiment populaire dans le bon sens du terme, où elle sert justement, on passe son temps à la voir partout, et justement c'est ce côté le choix par défaut c'est le Times, et le choix par défaut pour faire la fête c'est le Comic Sans, quoi.
Moi j'ai une théorie sur le Comic Sans, et je vous donnerai pas le temps d'y répondre, donc voilà. Mais non, c'est qu'en fait c'est aussi dans un moment où on lit sur écran et on n'écrit plus à la main. Tout à coup, le Comic Sans, par son espèce de fragilité, de côté courbe, il rappelle plus ou moins une forme d'écriture à la main. Et c'est pour ça que c'est un peu l'écriture des enfants. Et donc, du coup, il me semble que le Comic Sans, c'est une sorte de manière, comme ça, de faire une sorte de transition, de se rassurer, disons, dans un passage. Voilà, vous n'avez pas le temps de répondre à cette théorie. Dernière question. C'est ça le privilège d'avoir le micro. Dernière question. Est-ce que, citez-moi chacun faites pas un soupir à chacune de mes questions. Un truc qui est votre qui est pour vous une réussite récente ça peut être vous, hein, ça peut être une typo à vous, et juste pourquoi vous considérez que c'est une réussite récente. Alors je vais commencer par Geoffrey Dorn. Est-ce que vous avez un truc?
Moi je vois une réussite récente d'une typo qui s'appelle le Archer, qui, dans le sens où elle était vraiment très précise, très fine, très bien dessinée, elle est dessinée par Huffler et Frère Jones, et qui est devenue un peu populaire, mais là également on la retrouve sur le Nouvel Obs par exemple, où on la retrouve de plus en plus, et c'est une typo de très grande qualité. Et je commence à la voir un peu partout, et ça me fait très plaisir de voir une typo de très grande qualité se diffuser comme ça.
Franck Adébiaye.
Pour moi, une réussite récente, ce serait la typographie qui a été faite pour les 25 ans de l'Institut du Monde Arabe. Oui. Donc une fonte franco-arabe, et ça je pense que c'est
une fonte franco-arabe.
Voilà,
ah,
et ça je pense que c'est une vraie ligne en fait directrice dans ce qui va venir, c'est-à-dire que de plus en plus la typographie va se rapprocher de la société, va intégrer la dimension multiculturelle et multilingue de la société.
Ah ouais, Pauline Nunez, vous allez devoir quand même répondre à cette question que vous trouvez nulle.
Je ne vais pas répondre à la question, mais simplement je voudrais rebondir sur ce que dit Franck en parlant de l'ouverture au monde, parce qu'évidemment on a parlé de commerce, d'open source et tout, mais il y a aussi un besoin pour les scripts indiens, pour l'arabe, pour le chinois, pour le japonais, oui aussi, parce que c'est des choses qui existent moins et beaucoup de gens s'y penchent, et aussi avec une ouverture de programmation avec des problématiques complètement différentes, donc le monde est ouvert à la typographie.
Eh ben, merci à tous les trois, c'était bon. On est passé très vite sur plein de questions qui mériteraient chacune des livres entiers, des émissions entières, mais on y reviendra car Place de la Toile durera aussi longtemps que le web, enfin que l'internet plutôt déjà, soyons ambitieux. Voilà, toutes vos références, blogs, sites, bibliographies, etc. sont sur la page de Place de la Toile, accessible évidemment via le site de France Culture. Alors la semaine prochaine, on continuera donc notre petite série langue, littérature, etc. puisqu'on sera en direct depuis le Salon du Livre qui se tient comme chaque année à Paris, Porte de Versailles, en compagnie de trois auteurs qui ont chacun à sa manière pris Internet comme objet littéraire, Solange Biécharton, Ariel Koenig et Luc Blanvillain, donc Internet comme objet de littérature. Ce sera samedi prochain, 18h10 dans Place de la Toile. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique ce soir, Élise Le, réalisation Olivier Guérin, dans quelques instants Charles Danzig, secret professionnel. Bonne soirée, bonne semaine.